Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. C'est l'histoire d'une amitié entre deux voisins qui partagent une frontière d'à peine 15 km entre la mer du Japon et une minuscule borne triangulaire en pierre, mais ô combien symbolique, qu'on appelle le tripoint Chine-Corée du Nord-Russie. Cette semaine, Vladimir Poutine était à Pyongyang afin d'y lier une alliance militaire avec Kim Jong-un. Alors pour le Kremlin, l'intérêt est évident, mais pour le russe moyen, c'est peut-être plus compliqué que ça. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et nous prenons la direction de la capitale russe pour retrouver le correspondant de BFM TV, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors d'abord, est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu les points saillants de, je cite, ce traité de partenariat stratégique global entre la Russie et la Corée du Nord, fermez les guillemets.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on voit venir depuis plusieurs mois, parce que si on se rappelle bien, il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'était rendu en Corée du Nord, et le ministre de la Défense, Feu Sergueï Shoigu aussi, et en fait, on avait vu apparaître une sorte de renouveau des relations un peu de dernière minute avec... Enfin, motivé par le besoin de la Russie d'obtenir des munitions pour mener sa guerre en Ukraine. Et donc, assez naturellement, c'était presque étrangement naturel, les Russes se sont tournés vers la Corée du Nord, qui avait en fait de grosses réserves d'obus soviétiques, utilisables instantanément, facilement. Évidemment, ça correspond aux armes utilisées par la Russie dans le Donbass. Et donc, on a vu, les Ukrainiens ont vu apparaître sur le front ces munitions... soviétique qui venait de Corée du Nord. Et donc Vladimir Poutine, lui, il a voulu aller plus loin dans ce partenariat, parce que il n'y a pas que les questions militaires au Kremlin, mais il y a aussi les questions aujourd'hui de vision et de partage du monde, et notamment de lutte contre l'impérialisme américain. Et donc ce partenariat militaire que Vladimir Poutine est allé signer en Corée du Nord, en fait, ça va plus loin que les questions militaires. C'est vraiment l'idée de protection mutuelle. Si les États-Unis venaient à nous attaquer, on est censé se protéger l'un et l'autre. Donc sur ce point-là, la Corée du Nord y gagne forcément beaucoup. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas forcément, mais ce qui est sous-entendu par la presse russe, il y a les questions d'économie de guerre que la Russie alors arrive à traverser au sein de son pays, mais on sait que Moscou a besoin notamment de l'Iran et donc aussi de la Corée du Nord et de la Chine aussi pour certaines parties électroniques de ses missiles, et on sait que la Corée du Nord va pouvoir faire tourner, si ce n'est déjà le cas, ses usines au maximum de munitions pour continuer à alimenter la Russie. Alors derrière, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a du pétrole moins cher. Il y a une aide aussi, ça c'est expliqué clairement par la presse russe, pour lutter contre les sanctions dont fait l'objet la Corée du Nord, parce que la Russie fait l'objet de beaucoup de sanctions et qui s'est présenté comme une sorte de solidarité entre victimes du monde occidental. On va essayer de s'entraider, de développer nos économies, et donc on le comprend peut-être surtout l'économie coréenne, nord-coréenne. Et puis il y a ce mystère sur les questions nucléaires, et à quel point la Russie est en capacité et a la volonté d'aider la Corée du Nord à développer d'éventuelles bombes nucléaires. C'est une question que se pose la presse russe, hein, qui n'a pas forcément une réponse claire et nette. Mais voilà, c'est visiblement dans les dossiers, c'était dans les discussions, avec aussi en toile de fond la relation entre la Corée du Nord et la Chine, la Russie et la Chine, parce que même si la Chine, en gros, c'est la conclusion de la presse russe, voyait depuis longtemps ce partenariat se construire entre la Corée du Nord et la Russie, c'est pas forcément un partenariat que la Chine apprécie beaucoup, même si visiblement elle le voit comme quelque chose d'assez logique dans la stratégie, la position que la Russie essaie de prendre de leader d'un monde qui en gros veut se protéger, voire se débarrasser des Américains.
Oui, alors si c'est pour déséquilibrer les Américains, Pékin dit oui. Si c'est pour fabriquer une bombe nucléaire russo-nord-coréenne, c'est non pour Pékin. Alors, moi je le disais en introduction, c'est entre 15 et 20 kilomètres. C'est un fleuve qui s'appelle fleuve Tumen, qui part de la mer du Japon et qui s'arrête à cette triple frontière avec ce tripoint. J'invite les auditeurs de ce podcast à aller sur le internet pour voir cette borne. On parle de pays très importants et c'est un tout petit truc en triangle qui a l'air d'être du granit avec le nom des pays, chacun dans leur langue. Alors, le lien historique, il est quand même très fort entre l'URSS devenue Russie et la Corée du Nord. Et tu parlais de besoin d'obus soviétiques. C'est un sacré retournement de l'histoire parce que 1945, l'URSS chasse le Japon de la péninsule coréenne. 1950-53, l'URSS arme totalement la Corée du Nord. Et depuis, il y a eu un lien très très fort, même si c'est la première fois, si je ne m'abuse, depuis 2000 ou 2001 que Vladimir Poutine se rend à Pyongyang.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux me dire, moi, du lien entre la Corée du Nord et la Russie d'aujourd'hui? Tu nous as expliqué sur ce partenariat, mais je dirais de façon plus culturelle.
Oui, alors déjà, au niveau de cette frontière, le lien, il est presque, j'allais pas dire tendu, mais c'est un endroit, un point de la frontière russe qui est très surveillé par le FSB, parce que le FSB a aussi une section en charge de la protection des frontières, parce que de très nombreux pêcheurs nord-coréens viennent pêcher illégalement ou viennent se balader illégalement en Russie. Donc c'est quelque chose qui est très surveillé, parfois un peu compliqué à surveiller parce que c'est l'Extrême-Orient et la météo parfois là-bas est très difficile. Donc il y a une relation un peu bizarre des autorités locales, en tout cas là-bas avec la Corée du Nord. Il y a aussi une méfiance des Russes qui vivent dans ces régions-là parce que il y a eu des vagues de travailleurs chinois pendant un temps jusqu'au Covid qui a un peu tout bloqué et ils ont un peu été remplacés, semble-t-il, pour certains, par des travailleurs nord-coréens qui, à chaque fois, viennent très discrètement, on leur trouve un bois. Ils vivent dans un campement, ils sont surveillés par des chefs et en fait ils travaillent jour et nuit et ils sortent jamais, ils font pas vraiment vivre l'économie locale, ils viennent juste exploiter des ressources du coin. Donc il y a un peu de méfiance, la méfiance que les gens d'Extrême-Orient, les Russes d'Extrême-Orient avaient envers les Chinois, elle se retrouve un peu aussi envers les Nord-Coréens. Et de manière générale, culturellement, alors oui, c'est sûr que dans ces villes à proximité de cette frontière, les liens se perdure encore et on en retrouve des traces et de toute façon l'histoire a créé ces liens, mais dans le reste de la Russie ça reste, alors le reste de la Russie c'est le danger c'est de parler depuis Moscou, mais enfin c'est quand même l'ouest de la Russie qui donne un peu la voix au reste du pays, et les liens entre la Russie et la Corée du Nord c'est quelque chose un peu exotique, en tout cas vu de Moscou. C'est les Russes, il faut savoir, ont à peu près la même image que nous occidentaux de la Corée du Nord. Je pense qu'ils connaissent l'histoire de ce pays, je pense que ils savent comment on y vit, comment la population y est traitée, et donc cette visite aujourd'hui elle a finalement peu d'écho parce que voilà, il y a plus grand monde pour pouvoir s'exprimer publiquement en Russie. Mais il y a encore quelques mois, quand justement on parlait de ces liens que le Kremlin, que la Russie essayait de reconstruire avec la Corée du Nord, ça faisait l'objet de beaucoup d'ironie. Alors, ironie qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais ironie et peur, c'est-à-dire que ce terme de nord-coréanisation était même utilisé par beaucoup de Russes en disant mais
ah, ça veut dire quoi très exactement?
Eh ben pour eux c'est la voie qu'ils craignent que la Russie soit en train de prendre vers toujours plus de répression et surtout c'est vraiment plus de répression et surtout un pays qui vit dans sa bulle parce que c'est une sensation qui est quand même très forte ici et le Kremlin œuvre beaucoup d'ailleurs pour donner la sensation aux Russes qu'ils ne vivent pas dans leur bulle et qu'ils arrivent à se développer et qu'ils ont encore plein d'amis. Mais il y a quand même cette sensation, parce que la réalité, c'est que ce pays est tourné vers l'Europe et que le fait que l'Europe lui soit partiellement fermée aujourd'hui, en tout cas les marques occidentales, les produits occidentaux entrent plus difficilement en Russie, donne quand même cette sensation de bulle et d'être refermé sur le monde. Et donc c'est cet ensemble, plus de répression, de contrôle de la population, plus le fait que le Kremlin semble avoir la volonté de se couper du monde occidental, donne à beaucoup de Russes la sensation que le pays se nord-coréanise. Et donc c'était un terme qu'on entendait parfois ces derniers temps. Alors parfois ça faisait l'objet d'ironies, de blagues. Et puis parfois c'était vraiment une crainte, quoi. Notre avenir, ça va être la Corée du Nord, quoi. C'était l'exemple qui était utilisé par les Russes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant et en même temps toujours aussi triste, mais le Kremlin quelque part réécrit un peu son histoire en permanence. Et donc là, je voyais l'attitude des médias d'État sur cette visite, et on essaie de présenter la Corée du Nord comme un pays finalement plus libre que les pays occidentaux, où les gens vivent heureux. Alors ça, c'est pas difficile à illustrer en images. Et il y a eu cette image qui a fait le tour du web. Alors je sais pas si ça, pour être honnête, si ça a fait le tour du web en dehors qu'en Occident, mais en tout cas, c'est arrivé jusqu'à chez nous, et je sais pas à quel point les Russes l'ont vu, mais de ce Pavel Zarubin, qui est le journaliste de la première chaîne russe, dont le seul job est de coller Vladimir Poutine au quotidien, qui est à Pyongyang, qui est en train d'expliquer que les habitants sont plus heureux, plus libres qu'ailleurs, et que finalement ils rêveraient presque d'avoir la même vie qu'eux. Donc il y a cette volonté d'essayer d'expliquer que la Corée du Nord, c'est finalement un ennemi qui a été virtuellement créé par l'Occident, mais qu'en fait ça va être le nouvel ami à qui il va falloir accepter de vivre.
Le rapport des Russes à l'image de Kim Jong-un, est-ce qu'il est le même que le nôtre, c'est-à-dire d'un enfant gâté, mais en même temps un fou dangereux qui pourrait faire sauter une partie de la planète parce qu'il n'a pas les codes, c'est le cas de le dire, nucléaire, en tout cas la grammaire nucléaire, d'un Vladimir Poutine.
Et c'est là que ça devient un peu effrayant, parce que la sensation que j'ai eue ces derniers jours, c'est que les Russes, qui sont vraiment très touchés par cette guerre et qui sont très touchés par la position de l'Occident, qui est vécue comme une position anti-russe, semblent prêts aujourd'hui à s'allier avec à peu près n'importe qui irait dans leur sens, n'importe qui reconnaîtrait leur rôle dans l'histoire, qui reconnaîtrait le fait qu'ils sont du bon côté de l'histoire en Ukraine, qui est la position évidemment officielle. Et donc la sensation, parce que j'ai tenté de répondre sous certains postes de médias russes à certains Russes pour leur dire, mais super, votre nouvel ami, c'est un bel avenir qu'on vous promet en Russie. Et en fait, je me faisais tomber dessus par des dizaines de personnes qui m'expliquaient que c'était mieux que nos amis à nous, Européens, qu'au moins le président, j'allais l'appeler le dictateur, mais eux ne l'appelleraient pas le dictateur, le président de Corée du Nord, le leader de Corée du Nord, eh bien, lui, il a compris la position de la Russie, il a compris qu'il fallait soutenir la Russie, que les problèmes, c'était les États-Unis. Et donc, en gros, j'ai la sensation que beaucoup de Russes, c'est toujours difficile de dire beaucoup, pas beaucoup, mais que ceux qui soutiennent la guerre en Ukraine aujourd'hui et qui sont toujours plus nombreux, à mon avis, n'ont rien contre des accords avec ce genre de personnes. De toute façon, la Russie collabore totalement avec la Chine, avec l'Iran, et personne n'y voit grand-chose à redire aujourd'hui. Je rappelle aussi que les Russes sont assez fans, finalement, de Donald Trump. Enfin, on vit de toute façon un peu sur une autre planète ici.
À ton avis, qui a le plus à gagner entre les Nord-Coréens et les Russes avec ce traité?
Effectivement, on aurait plutôt tendance à estimer que c'est la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, finalement, n'a pas grand-chose à perdre. Je veux dire, elle gagne une protection, en tout cas annoncée, de la Russie au cas où le front devait reprendre vie. Elle y gagne des industries qui vont tourner à fond. Elle y gagne peut-être aussi une aide pour développer tout ce qui est nucléaire militaire. Et la Russie, elle y voit ses intérêts. Après, la Russie accepte aussi définitivement, même si on l'avait déjà remarqué jusqu'ici, de s'auto-attribuer une mauvaise image, de s'auto-attribuer l'image d'un pays délinquant, quelque part, qui est prêt à traiter avec n'importe qui, auprès des Occidentaux, mais aussi voilà, donner cette image auprès de son propre pays, parce que il y en a quand même beaucoup en Russie qui ont encore du mal à admettre, comment dire, à voir ce que le Kremlin essaie de leur montrer, quand Moscou essaie de leur expliquer que la Russie n'est pas seule, que l'Occident finalement, et c'est vrai, c'est une petite partie du monde, que une plus grosse partie du monde soutiendrait la Russie, et que la Russie n'est donc pas isolée. Bah, finalement, quand un déplacement de Vladimir Poutine se fait aujourd'hui en Corée du Nord, c'est pas le meilleur exemple qu'on puisse avoir que la Russie n'est pas seule aujourd'hui et n'est pas isolée. Donc il y a quand même des Russes qui voient les choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a une photo qui a été ressortie par un média d'opposition russe ces derniers jours qui montre Vladimir Poutine dans les années 2000 dans ce qui semble être une photo de G20 avec des dizaines de présidents et de représentants occidentaux autour de lui sur une photo. Et le Vladimir Poutine de 2024 qui est debout dans sa petite voiture avec le dictateur nord-coréen. Beaucoup de Russes y voient quand même une réalité de l'évolution de la Russie d'aujourd'hui et le fait que la Russie n'est peut-être pas aussi entourée que ce qui est dit au Kremlin.
Oui, moi j'avais vu un autre photomontage où on voyait sur ces images des deux dirigeants, Vladimir Poutine avec la coupe de cheveux de Kim. Est-ce que tu penses qu'il pourrait aussi prendre la moustache de Bachar el-Assad ou de Maduro au Venezuela, c'est-à-dire montrer et chercher à tout prix ce genre de partenariat très fort?
J'ai vraiment cru que tu parlais d'un futur mème où on aurait vu Vladimir Poutine se mettre une moustache et je demande à voir.
On ne lance pas les gens d'Internet. Tu sais bien que c'est possible.
Ça pourrait arriver. Et d'ailleurs, je te raconte au passage, mais il y a une autre image qui est ressortie de ce déplacement où visiblement c'était tiré d'un vrai reportage russe sur place où le journaliste dont je parlais tout à l'heure expliquait que la population sur la route de l'aéroport criait à Vladimir Poutine que la population qu'elle ne voulait pas que Vladimir Poutine retourne en Russie. Et donc beaucoup d'internautes russes ont répondu en disant « Mais nous non plus, on ne veut pas qu'il revienne en Russie. Franchement, gardez-le, il n'y a aucun problème. » Donc les Russes ont encore beaucoup d'humour. Et ça, d'ailleurs, ça pourra peut-être faire l'objet d'un podcast un jour parce que il y a un sens de l'humour qui va du russe lambda, d'ailleurs, jusqu'à Vladimir Poutine qui a son humour très particulier et qui parfois, je dois l'avouer, me fait un petit peu rire, même si c'est d'un cynisme total.
Et donc oui, sur les autres ou sur une espèce de constitution d'une horde sauvage au sens western du terme, c'est-à-dire avec des hors-la-loi ensemble qui cavalent à la recherche de méfaits.
Oui, mais c'est... il y a un média russe qui a utilisé ce terme. Alors, je ne sais pas si c'est un terme, pour être honnête, qui existe en géopolitique, mais moi, je l'ai découvert, l'alignement de combat. Et c'est clairement une stratégie de Moscou aujourd'hui d'essayer de réunir le plus de pays possible, quels que soient ces pays, quelle que soit la taille de ces pays, dans une sorte d'alignement de combat contre les ennemis de la Russie qu'on connaît, avec aussi... Et ça, c'est très intéressant, parce que je l'ai découvert aussi dans la presse russe. On voit, hein, je ne sais pas si on le voit jusqu'en Occident, mais nous, à Moscou, on voit bien que Vladimir Poutine essaie de développer à fond ses BRICS. C'est l'organisation de Vladimir Poutine. J'ai peur de te faire la liste des pays, mais au moins le Brésil, l'Inde, la Chine...
L'Afrique du Sud.
Oui, exactement. Plus toute une pelletée de pays observateurs qui en fait sont plus ou moins, avec le temps passant, mis au même niveau que les membres fondateurs, on va dire, de cette organisation. Les BRICS, c'est aussi sur cette base que Vladimir Poutine, je le rappelle au passage, organise ses Jeux Olympiques maison en ce moment en Russie. Avec un petit point sur les médailles, parce que c'est assez marrant comme d'habitude, mais Les Russes remportent quasiment tout. Donc, ils remportent leurs Jeux Olympiques et en plus, ils vont remporter toutes leurs médailles. Et je le précise aussi parce que on en a parlé dans le dernier podcast et j'avais cité un nombre de pays qui devaient participer. Assez important, plus de 80, je crois. Et on découvre ces derniers jours qu'en fait, certains pays sont représentés par un drapeau, mais il n'y a pas d'athlètes, en fait.
Incroyable.
Donc, c'est en gros une manipulation totale. Voilà, donc je me suis éloigné de ma réponse, mais je voulais le préciser au passage. Et donc, la Corée du Nord, et c'est précisé dans la presse russe, pourrait éventuellement rejoindre d'une façon ou d'une autre ces BRICS dans un temps proche. Et c'est assez intéressant parce que clairement, le président russe est en train de monter, je sais pas comment lui le conçoit, comme une Europe, mais qui irait plus loin que l'Europe. Alors c'est peut-être une sorte d'OTAN à la russe, qui aura pour objectif de pousser ceux qui ne le suivent pas dans sa vision d'un nouvel ordre mondial, donc c'est ce qu'on voit apparaître avec le temps. Et donc clairement, même des petits pays, même la Corée du Nord, qui à l'origine n'avait pas forcément une importance incroyable pour la Russie, eh bien, elle est totalement bienvenue dans ce genre d'organisation.
D'organisation. Et la Horde Sauvage, c'est l'un de mes films préférés, mais sans tout spoiler, ça se finit assez mal pour les protagonistes, mais grand film de Peckinpah. Mais là aussi, moi, je m'éloigne du sujet, mais j'ai bien retenu l'humour, et l'humour commençait notamment par ces drapeaux qui représentaient, de mémoire, tu m'avais dit 97 pays à ces jeux des BRICS. Merci beaucoup, Paul, et à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.